Radio Prague, les informations.
Le gouvernement approuve le projet de loi sur le référendum. Eurostat, les Tchèques génèrent relativement peu de déchets, mais la mise en décharge reste leur traitement privilégié. Et puis une force de police anti-émeute va être créée à Chluknov. Le gouvernement a approuvé ce mercredi le projet de loi sur le référendum. Selon ce nouveau texte, un référendum pourrait être organisé si une pétition signée par 250 000 citoyens le réclame. L'initiative pourra également provenir du gouvernement. L'accord des deux chambres du Parlement sera néanmoins nécessaire pour que le référendum puisse être organisé. Le projet doit maintenant être examiné par la Chambre des députés. Toutefois, une majorité constitutionnelle est nécessaire pour son adoption, ce qui signifie que la coalition aura besoin de voix de membres des deux partis de l'opposition de gauche qui, pour l'heure, critiquent le projet. Près de 502 kilos de déchets municipaux ont été générés par personne en 2010 pour l'ensemble de l'Union européenne, dont 486 kilos ont été traités en République tchèque. 317 kilos ont été générés, ce qui place le pays en quatrième position au classement des pays produisant le moins de déchets. La Lettonie arrive en tête de ce classement avec 304 kilos par personne et Chypre étant dernière, 760 kilos par personne. Les chiffres ont été publiés mardi par Eurostat. Toutefois, la mise en décharge reste la principale méthode de traitement de ces déchets en République tchèque avec 68% contre 38% pour l'ensemble des 27. La police tchèque va créer une force de police anti-émeute à Chluknov dans le nord de la Bohême, a annoncé le président de la police, Petr Lessé. Après avoir rencontré le gouverneur de la région ce mercredi, il a fait savoir que cette unité serait constituée de 50 officiers de police, mais que leur nombre serait progressivement porté à 180. La police a commencé à envisager la création de cette unité l'an dernier, après les violents incidents et les manifestations anti-roms qui ont secoué la région à la fin de l'été 2011. La semaine dernière, la police avait dit renoncer au projet en raison de nouvelles coupes budgétaires dans le secteur, mais le ministre de l'Intérieur avait répondu qu'elle devait faire des économies ailleurs. Dans son édition de mercredi, le quotidien slovaque SME revient sur l'affaire BEM Janoušek et s'étonne de ce que le président tchèque Václav Klaus, dans sa réaction, se plaigne de l'existence d'un système d'écoute sans pour autant s'offusquer du fait que la mairie de Prague soit devenue un symbole de corruption. Pour le quotidien slovaque, ce n'est pas un hasard, car selon lui, personne n'a autant participé à la corruption et au clientélisme comme l'actuel président tchèque, a commencé par son refus d'établir un cadre légal strict pour la privatisation et la gestion de l'argent de l'État. D'après SME, si la droite tchèque veut survivre, elle ne doit pas seulement se débarrasser de Pavel BEM, mais aussi de Václav Klaus. À noter que le comité judiciaire du Conseil d'État de la Reine d'Angleterre, dernière instance judiciaire de certaines des anciennes colonies britanniques, a décidé ce mercredi que l'homme d'affaires tchèque Viktor Kojani ne devait pas être extradé des Bahamas vers les États-Unis. Le Conseil a refusé l'appel américain contre le verdict des tribunaux des Bahamas, selon lesquels Kojani n'a pas commis de crime nécessitant leur extradition. Je vous rappelle que Viktor Kojani avait fait fortune lors de la privatisation en République tchèque après 1989. Il vit aux Bahamas depuis 1995. La République tchèque, où il est poursuivi pour des malversations, s'efforce de le faire extrader en vain depuis des années. Et puis en sport, on finit par une affaire de dopage. Le nageur tchèque Michal Rubáček a écopé d'une suspension de 2 ans pour avoir échoué un test de dépistage des drogues de performance. Le président de la Fédération tchèque de natation, Vladimír Serp, a mentionné que son comité de discipline avait émis son verdict mardi. On finit par un mot de météo. Jeudi, jour de fête des Tatiana. La météo sera maussade après ses premiers jours plus que printaniers. Un temps couvert avec des précipitations accompagnées d'un refroidissement général caractérisera la fin de semaine. Les températures oscilleront entre 9 et 13 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Le président tchèque Václav Klaus a assuré son homologue bulgare du soutien de la République tchèque pour l'intégration de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Le pianiste français Pierre-Arnaud Dablemont vient d'enregistrer à Prague son premier disque. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à la rubrique « Chapitre de l'histoire » dans le cadre de laquelle David Allon vous parlera du rôle des radios étrangères dans la vie politique de la Tchécoslovaquie. Voilà ce que nous avons préparé pour vous. Merci de votre fidélité à Radio Prague et bonne écoute.
«
En voyage de travail à Sofia, le président tchèque Václav Klaus a assuré du soutien de la République tchèque en faveur de l'intégration de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Les détails avec Paul Bauer.
Alors qu'en France, le candidat Nicolas Sarkozy lançait en grande pompe lors de son meeting de Villepin un ultimatum à l'Europe si les accords Schengen n'étaient pas durcis, en voyage de travail à Sofia, le président tchèque a renouvelé le soutien de la République tchèque pour l'entrée de la Bulgarie à l'espace Schengen. On l'écoute. La République tchèque soutient de manière inconditionnelle la Bulgarie sur ce dossier-là. On se souvient qu'en mai 2011, les députés européens s'étaient prononcés en faveur de l'intégration de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace de libre circulation. Les eurodéputés considèrent que les deux pays remplissent l'ensemble des critères requis pour lever les contrôles systématiques aux frontières internes entre ces pays, membres de l'Union européenne depuis 2007 et les autres pays de l'Union européenne entrés 3 ans plus tôt. De leur côté, les autorités françaises, allemandes et danoises ont fait savoir qu'elle s'opposait à l'intégration de la Bulgarie et de la Roumanie en raison du niveau élevé de la corruption au sein des appareils de l'État. Depuis un an, la Bulgarie et la Roumanie ont renforcé leur contrôle aux frontières externes de l'Union européenne et estiment remplir les critères en vue de l'entrée en vigueur des accords dans les deux pays. Depuis le début du mois de mars, les Pays-Bas bloquent toutefois leur intégration effective. Je pense que cette injustice sera effacée cette année en septembre, a déclaré ce mardi le président bulgare Rosen Plevneliev, faisant référence au sommet européen de l'automne 2012, où la gestion de l'élargissement de l'espace Schengen sera débattue. Lors de sa visite en Roumanie, le président tchèque Václav Klaus a ajouté que les déclarations des pays d'Europe occidentale contre la pleine intégration de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen reflétaient leur manque de discernement et leur sous-évaluation de la réalité de la situation dans ces deux pays. Pour les responsables politiques de la Bulgarie et de la Roumanie, depuis 2007, leur statut d'État membre de l'Union européenne est difficilement accepté par les anciens pays de l'UE et considèrent avec regret être, 4 ans après leur intégration, des membres de seconde catégorie. De manière générale, le soutien du président tchèque aux pays de l'Europe de l'Est s'inscrit dans la lignée de la politique de partenariat oriental de l'Europe, souvent qualifiée d'atlantiste car au diapason avec la vision américaine de l'Europe. Les Tchèques sont en effet favorables à l'établissement d'un espace de coopération politique et économique multilatérale approfondie entre les différents pays riverains de la mer Noire. Condition pour la République tchèque de la stabilisation de cette partie de l'Europe. Par ailleurs, Prague considère que le sud-est de l'Europe est un espace stratégique permettant entre autres, une alternative à l'approvisionnement en hydrocarbures de l'Europe par la Russie. L'élargissement de l'espace Schengen à la Bulgarie et à la Roumanie est l'une des pièces de ce dispositif de géopolitique européenne version tchèque.
La musique tchèque occupe une place importante dans le répertoire et dans la vie du pianiste français Pierre Arnaud d'Ablemont. Après avoir étudié le piano avec Véronique Menuès-Stieb, il est entré dans la classe du professeur František Maxián au Conservatoire de Prague. Ses études à Prague, qui ont duré 7 ans, lui ont permis de connaître intimement la musique et l'art d'interprétation tchèque. Récemment, il est revenu à Prague pour enregistrer dans les studios de la faculté de musique de l'Académie des Arts un disque qui lui a permis de réunir et de confronter deux compositeurs qu'il aime beaucoup, Leoš Janáček et Maurice Ravel. Avant de mettre un point final à ce travail, il a présenté son disque au micro de Radio Prague.
J'ai longtemps attendu avant d'enregistrer un disque parce que j'avais besoin de me sentir prêt à faire ça. Et puis, je me suis dit qu'au bout de 7 ans à Prague, où j'ai vécu avec les compositeurs tchèques, puisque je n'ai pas assisté aux cours pour étrangers, mais j'étais dans le cursus tchèque, et j'ai eu toute cette ouverture en fait sur la musique tchèque et l'école nationale tchèque de composition, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment s'est forgée toute cette histoire de la musique tchèque. J'avais déjà avant de venir à Prague une grosse affinité pour Janáček, qui s'est renforcée en venant ici, en découvrant la Moravie, en découvrant tout cet univers si particulier lié à Janáček. Je me suis dit que ça serait pour moi tout à fait naturel d'enregistrer de la musique tchèque. Et puis, comme je suis français, d'enregistrer aussi de la musique française.
Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir venir comme ça enregistrer un disque à Prague ?
Alors, il faut déjà connaître l'endroit, parce que c'est vrai que, en tout cas, le studio ici à Ramu n'est pas connu sur le circuit professionnel, parce que Généralement, les gens s'orientent vers des studios qui sont plus prestigieux, en tout cas en renommée internationale. Moi, je connaissais donc les gens de l'Académie de musique. On avait beaucoup travaillé ensemble, pas dans le studio, mais à d'autres niveaux. J'ai donc visité le studio il y a quelques années en pensant venir étudier l'acoustique et justement la prise de son, l'enregistrement studio, parce que c'est quelque chose qui vraiment me passionne, toute cette technique d'enregistrement. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et quelques années plus tard, je me suis dit, tiens, c'est un très bon studio. Je vais utiliser ce studio et j'ai envie de travailler avec ces gens. Et puis voilà, puis on arrive là, on visite le studio, on essaye le piano, on fait quelques prises pour voir si le son marche. On essaye de dégager les emplois du temps, de choisir vraiment l'ingénieur du son que je voulais, choisir le directeur artistique que je voulais. Et puis après, on trouve une date dans un calendrier où on est tous là et on se met à enregistrer.
Vous avez décidé d'enregistrer de la musique de Janáček et de la musique de Ravel. Pourquoi cette combinaison? Est-ce qu'il y a une affinité entre Janáček et Ravel?
Oui, il y a une affinité entre Janáček et Ravel. Déjà, ce sont des œuvres qui sont à peu près de la même période. Il y a des influences qui sont intéressantes, puisque dans les deux cas, on a une musique qui est quand même assez colorée. C'est un travail basé sur la couleur. Mais c'était intéressant aussi de les mettre en opposition, parce que d'un côté, on a Ravel, une musique très savante, très intellectuelle. Et de l'autre côté, on a Janáček qui, lui, justement, utilise tout ce folklore morave et prend ses petites mélodies chantées dans les Hospoda ou ailleurs et les modifie de façon à avoir un travail qui correspond à son époque, un travail qui correspond à sa pensée de la musique. Et pour moi, c'était intéressant. Il y a aussi le côté plus technique au niveau de la composition, qui est le côté modal, puisque Janáček écrit beaucoup avec les modes. Et Ravel le fait, mais d'une autre manière. Donc c'est une façon aussi de montrer qu'il y a une continuité, mais que chaque compositeur a son point de vue sur le matériel de base, en fait. Ensuite, j'ai aussi pensé un peu à moi. J'ai aussi pensé un peu à moi et je me suis dit que, après avoir passé tout ce temps en République tchèque, je me sens quand même très proche de la République tchèque, des Tchèques, de la langue tchèque, et je voulais rapprocher deux compositeurs qui me sont vraiment particulièrement chers.
C'était donc le pianiste français Pierre Arnaud d'Ablemont. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Les médias peuvent représenter un enjeu politique, cela n'est pas nouveau. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, la radio joue un rôle de poids dans ce domaine. C'était également le cas dans la Tchécoslovaquie de la normalisation dans les années 1970 et 1980, avec les émissions de radios étrangères diffusées illégalement dans le pays. Voici la reprise d'une émission consacrée aux radios étrangères, par David Allon.
Chapitre de l'histoire.
En juillet 1960, la Tchécoslovaquie devient officiellement la République socialiste tchécoslovaque, la seule à porter cette dénomination avec l'URSS. Et pourtant, les apparences sont alors bien trompeuses. Car au moment où le pays semble s'aligner de plus en plus sur le grand frère russe, la société, elle, commence à décrocher, comme nous le rappelle Pavel Pekacek, journaliste à Radio Europe Libre, Radio Liberté, pendant les années 1970.
C'est vraiment à partir des années 1960 que des tendances à la libéralisation sont clairement apparues dans la Tchécoslovaquie communiste. Ce nouveau courant a également touché des personnes qui s'étaient d'abord inclinées face au pouvoir. En effet, ils voyaient que l'impopularité du régime grandissait chaque jour un peu plus.
Protože cítil, že jeho neobliba velice roste.
Et comme tout le monde le sait aujourd'hui à travers le monde, la Tchécoslovaquie a essayé en 1968 de construire un socialisme à visage humain, selon la désormais célèbre expression. Bien sûr, cela n'a pas marché et je pense que cela ne pourra jamais marcher. Le socialisme à visage humain me semble incompatible avec le communisme.
De toute façon, après la chute du printemps de Prague, le socialisme reprend un visage plus inhumain en Tchécoslovaquie. La période de la remise au pas succède au temps des illusions. Et alors que dans les années 1950, le régime exécutait, dans les années 1970, il utilisait l'arme sociale. Pavel Pekáček.
Samozřejmě normalizace byla úplně jiná než období. Bien sûr, la période de la normalisation à partir de 1969 n'avait rien à voir avec celle de Dubček et de ce qui avait précédé l'occupation de la Tchécoslovaquie. La plupart des gens avaient peur, beaucoup essayaient de s'adapter, mais je ne leur jette pas la pierre. Il était très difficile de s'opposer au régime quand celui tenait, par exemple, l'avenir de vos enfants dans ses mains. Pour les parents compromis politiquement, impossible de placer leurs enfants dans une école supérieure ou à l'université. Pour le régime, c'était juste un exemple parmi d'autres, des menaces qui pesaient sur les gens qui n'approuvaient pas la normalisation.
Pavel Pekáček dirigea durant les années 70 la section tchécoslovaque de Radio Europe Libre, la célèbre radio américaine. Il ne vivait donc pas dans le pays, mais il était mieux placé que quiconque pour voir l'impact des radios étrangères sur le régime. C'est à partir de la Seconde Guerre mondiale, une guerre des armes mais aussi des mots, que la radio commence à jouer un rôle crucial en termes de propagande. Qu'il soit démocratique ou totalitaire, tous les pays en guerre l'utilisent. Et ce ne sera pas différent dans la Tchécoslovaquie des années 1970, et le régime aura fort à faire pour lutter contre l'écoute clandestine des différentes radios occidentales, Radio Luxembourg, AFN Munich, Autofahrung Unterwegs à Vienne, et bien sûr Radio Europe Libre.
Hlavní taková síla, by se dalo říct, l'arme privilégiée du régime contre la diffusion de Radio Europe Libre et les autres stations étrangères, c'était tout simplement leur suppression. Parfois, les autorités étaient très efficaces à ce petit jeu, mais les Tchèques ont alors pris l'habitude d'aller au chalet à la campagne, une spécialité tchèque encore bien vivante. Les petites mains du régime n'arrivaient pas jusque-là. Ils écoutaient donc Radio Europe Libre le week-end principalement. A tak lidé poslouchali Svobodnou Evropu hlavně o víkendech. A našli si místa, kde to poslouchat šlo lépe. Našli si.
Il existait des endroits où l'on pouvait mieux capter. Il y avait aussi des radios qui étaient construites avec beaucoup d'ingéniosité, équipées pour recevoir les radios étrangères dans les grandes villes comme à Prague. Pour écouter Radio Europe Libre, le mieux était de passer par Radio Soviet. Le régime avait très peur de l'écoute des stations illégales.
Zabraňovalo lidem v poslechu, protože režim se toho poslechu strašně bál. Strašně bál.
Et c'est cette peur du régime qui rendra celui-ci parfois dangereux envers les journalistes tchèques basés à l'étranger. Basé à Munich, sous le communisme, Pavel Pekáček nous confie les menaces qui pesaient sur lui et sa famille.
Ty pseudonymy, které jsme měli, já měl nejdřív Petr Horák.
J'ai moi-même porté plusieurs pseudonymes. À Radio Europe Libre, c'était Petr Horák et à La Voix de l'Amérique, c'était Pavel Skála. Ce n'était pas vraiment pour notre propre défense, bien qu'il y ait eu aussi des attaques sur nos vies. Non, c'était d'abord pour nos familles qui étaient restées en Tchécoslovaquie. Le but, que la police oublie peu à peu notre vrai nom, afin que nos proches ne soient pas inquiétés. Il pouvait cependant arriver que le régime découvre qui se cachait derrière tel pseudonyme.
Přece jenom ten pseudonym to někdy překryl.
Cette conscience du danger ne rendit Pavel Pekáček pas seulement prudent, mais également sage. Et juste avant la chute du communisme, il fera preuve d'un sens de la retenue salutaire.
Já jsem třeba říkal svým zaměstnancům ve Svobodné Evropě, když se blížil.
Alors que les événements de novembre 1989 se sont rapprochés, j'ai dit à mes collègues, informés, Elles ne font que ça. Ce sont les Tchécoslovaques qui doivent se décider seuls sur la base de vos informations. En aucun cas, nous ne devons provoquer ou tenter de hâter les événements. C'est à eux de le faire. Et je leur ai aussi dit, la meilleure propagande, c'est la vérité. C'était donc Pavel Pechacek au micro de David Allon. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les émissions de la section française de Radio Prague en audio et en texte sur www.radio.cz/fr.